Radio France Internationale, 7h à Paris, il est 1h à Washington. Le journal avec vous, Marion Cazeneuve. Bonjour Marion.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Et à la une, ce reportage exclusif aux États-Unis avec la police aux frontières et ses méthodes musclées contre les migrants.
Une police renforcée à la frontière mexicaine depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche qui continue de mettre en place une de ses promesses de campagne. Ballet diplomatique à Riyad en Arabie Saoudite avec aujourd'hui des pourparlers entre la Russie et les États-Unis sur fond de guerre en Ukraine, sans l'Ukraine, sans les Européens. Aussi. Nouvelle étape dans l'accord de trêve entre Israël et le Hezbollah qui ne sera pas totalement respecté. L'armée israélienne est censée se retirer du sud Liban, mais elle a déjà prévenu qu'elle allait maintenir des positions. Des centaines de Congolais fuient l'est de la RDC vers le Rwanda, craignant des combats entre le M23 et les FARDC. On parlera aussi de cette campagne chez les Républicains en France. Le parti de droite élira son chef en mai.
Et puis Marion, dans moins de 2 heures, maintenant vous connaîtrez le lauréat ou la lauréate du prix Découverte RFI 2025. 10 finalistes départagés par vos votes et par notre jury. On y revient à 7h45, temps universel. Le Costa Rica facilite les expulsions de migrants aux États-Unis.
Après le Guatemala et le Panama, ce pays d'Amérique latine vient d'accepter d'être un point de passage pour ces sans-papiers expulsés des États-Unis qui seront ensuite rapatriés dans leur pays d'origine. Près d'un mois après son retour au pouvoir, le président américain Donald Trump met en place, comme promis, une politique très sévère en matière d'immigration. Avec des expulsions à tour de bras, des effectifs policiers renforcés à la frontière mexicaine. Résultat, en 3 semaines, les franchissements illégaux y ont chuté de 90% selon la police des frontières. David Thompson a pu suivre l'une de leurs unités d'élite. Reportage exclusif à El Paso, au Texas.
Un groupe de migrants vient de traverser la frontière mexicaine en courant à toutes jambes. Les 4 clandestins sont immédiatement pris en chasse par les agents du Borstar, une unité d'élite de la police anti-immigration américaine. Une course-poursuite s'engage dans la montagne escarpée d'El Paso, ville frontalière avec le Mexique. Rapidement, l'un des migrants est rattrapé, plaqué au sol sans ménagement, menotté par 3 agents pendant qu'un 4e exulte au loin en criant « C'est comme ça qu'on reprend le contrôle de notre pays ».
J'en poursuivais 3 autres, j'en ai attrapé un. Les 2 autres ont réussi à s'enfuir. On les attrapera la prochaine fois. On va continuer à les poursuivre. On va continuer à reprendre le contrôle de notre pays. Ça fait 4 ans maintenant qu'on patrouille dans ces montagnes. C'était absolument hors de contrôle. Maintenant l'hémorragie s'est un peu arrêtée, mais pas totalement comme vous pouvez le voir.
Que Dieu bénisse le président Trump, ajoute ce policier d'élite dans un chuchotement à peine voilé. En théorie, sa fonction lui interdit toute prise de position politique. Le migrant menotté est quant à lui placé à l'arrière du SUV noir banalisé du Borstar. Il faut partir vite car de l'autre côté de cette route de terre qui sépare les 2 pays, les passeurs des cartels sont là. À quelques mètres à peine, ils jettent des pierres, profèrent des insultes. Preuve que la frontière États-Unis-Mexique est encore loin d'être sous contrôle, malgré le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. David Thompson, El Paso, RFI.
David Thompson qui reviendra plus largement sur cette opération de la police anti-migrants. Rendez-vous dans le dossier du journal de 8h. Heure de Paris. L'administration Trump poursuit aussi ses efforts diplomatiques et s'impose de plus en plus dans le dossier ukrainien, Marion.
Des pourparlers entre les États-Unis et la Russie s'ouvrent aujourd'hui à Riyad, en Arabie Saoudite. Il sera question officiellement d'une normalisation des relations entre les 2 pays, mais ces discussions poseront certainement les bases de futures négociations de paix en Ukraine. L'Ukraine pas prévenue, pas invitée à Riyad, ce qui révolte ces soldats ukrainiens déployés à Zaporijjia et rencontrés par nos envoyés spéciaux Anastasia Becchio et Boris Vichitz.
Sur leur base, dans un hangar à l'écart du front, des hommes d'âge mûr en treillis remettent en état leurs lance-roquettes multiples montées sur un pick-up. Avant de repartir sur le terrain, Timur prend des nouvelles des derniers développements diplomatiques. La réunion américano-russe à Riyad ne l'enchante guère.
Je me sens offensé parce qu'on en est réduit à attendre passivement. Pendant qu'on se bat, d'autres décident de notre sort dans notre dos. Bien sûr que cela ne nous plaît pas. On ne veut pas de ça.
Devant un empilement de roquettes de 122 mm de fabrication ukrainienne, tchèque et même pakistanaise, Viktor acquiesce. Il a du mal à accepter la position de Donald Trump, qui veut à tout prix rencontrer Vladimir Poutine.
Comment peut-il serrer la main et parler à un homme qui a du sang jusqu'au coude et même au-dessus? Personne ne s'est assis à une table pour négocier avec Ben Laden. On l'a simplement liquidé. Or, comme lui, Poutine est un criminel.
Le commandant de l'unité, Alexandre Taran, préfère regarder vers Paris où Emmanuel Macron a réuni des responsables européens.
Pourquoi on s'intéresse tout le temps à ce que fait l'oncle Sam ? On est l'Europe. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce Trump ? Qu'il s'embrasse avec Poutine, ça n'est pas grave.
Alexandre et ses hommes attendent des initiatives de la part des Européens, de la France et du Royaume-Uni particulièrement. S'ils ne font rien, prévient Victor, Poutine lancera une attaque, mais cette fois il ira jusqu'à la Manche. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Zaporizhia, RFI.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi lui aussi. Les États-Unis veulent faire plaisir à Vladimir Poutine, dit-il. Il déplore aussi une faible réponse des Européens, écartés peu à peu du dossier ukrainien. Certains dirigeants des 27 se sont réunis en urgence hier à Paris. À l'arrivée, pas de déclaration commune, des divisions, mais aussi une certitude. L'Europe doit faire plus sur les questions de défense et de sécurité.
On évoquait, Marion, ces discussions entre les États-Unis et la Russie à Riyad, la capitale saoudienne. Où se pressent des diplomates du monde entier cette semaine.
Puisqu'elle accueille aussi vendredi un sommet de pays arabes sur l'avenir de Gaza, ces pays devront trouver une réponse à la proposition de Donald Trump, le président américain qui veut déplacer les Gazaouis vers l'Égypte ou la Jordanie. Israël prépare déjà ce plan et crée une agence spéciale pour préparer ses départs, Michel Paul.
C'est une nouvelle cellule qui a été créée au sein même du ministère israélien de la Défense avec un objectif, le départ volontaire des habitants de la bande de Gaza, selon l'intitulé formulé par le ministre Israël Katz. Et il explique que cette cellule sera chargée des arrangements spéciaux pour les Gazaouis désireux de quitter l'enclave palestinienne par mer, air ou terre, et également d'autres modalités visant à faciliter leur départ. Au cours d'une réunion qui a regroupé des représentants de divers ministères, la mise en place de cette nouvelle unité a été définie et l'ébauche d'un premier plan a été présentée par le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires. Il faut souligner qu'à ce stade, en tout cas, la destination des éventuels candidats à l'émigration n'a pas été mentionné. Il y a quelques jours déjà, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a indiqué que le plan du président américain de déplacement des Gazaouis faisait l'objet de discussions avec les États-Unis pour permettre une mise en œuvre dans les toutes prochaines semaines. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Israël est censé retirer ses troupes du sud Liban aujourd'hui dans le cadre de l'accord de trêve entre Israël et le Hezbollah. Mais l'armée israélienne a déjà prévenu qu'elle allait maintenir des soldats dans 5 points stratégiques.
RFI, 8 heures passées de 8 minutes à Bukavu, la situation dans l'est de la RDC à présent.
Après la prise de Bukavu par le M23 ce week-end, des centaines de Congolais du sud Kivu ont fui le territoire de Kamanyola, craignant des combats. Entre le M23 et l'armée congolaise, ils ont trouvé refuge de l'autre côté de la frontière rwandaise. Reportage de Lucie Mouillou.
Quelques affaires à la main, Chiga Chama sort de l'église transformée en centre d'accueil pour les réfugiés de Kamanyola avant de monter dans un bus en direction de Bukavu.
À Kamanyola, on entend les crépitements de balles. Et quand on entend des tirs, il faut fuir. C'est pour ça qu'on est parti.
Selon les autorités, près d'un millier de personnes ont traversé ce lundi la frontière de Bugarama, restée fermée ces deux derniers jours. De nombreux habitants parlent de tirs et de pillages à Kamanyola. Béatrice Bakolekone n'a presque rien pu emporter avec elle.
Je n'ai que ce sac et ces habits. Je vais en vendre certains pour avoir un peu d'argent parce que je n'ai rien. Ma famille est à Bukavu, je suis toute seule.
Après l'entrée ce dimanche du groupe armé du M23 à Bukavu, certains habitants craignent que des affrontements descendent au sud de la capitale provinciale jusqu'à atteindre Kamanyola.
On ne pouvait pas rester à Kamanyola alors que nous voyons que peut-être c'est là où va se passer la totalité de la guerre. Ils sont là, ils se préparent pour la guerre et nous la population, on craint les bombes parce que les militaires burundais sont là et ils sont prêts pour se battre. Mais la population a peur, c'est pourquoi nous avons traversé la frontière.
La majorité des arrivants continuent leur route vers Bukavu, Goma. Plusieurs milliers de personnes avaient déjà fui Kamanyola ces derniers jours en direction du sud, notamment au Burundi. Lucie Mouillot, de retour de Bugarama, RFI.
La politique en France et cette bataille des chefs, ça se passe en ce moment chez les Républicains.
Et même si personne n'ose vraiment employer cette expression de bataille des chefs, c'est pourtant bien de cela qu'il s'agit au sein du parti de droite qui élira son chef en mai prochain. Et les deux candidats sont déjà en campagne. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Laurent Wauquiez se sont croisés hier au bureau politique du parti. Parti dont l'unité va être mise à rude épreuve, Raphaël Delvolvé.
Favori des sondages et soutenu par plusieurs poids lourds, Bruno Retailleau était souriant à la sortie de la réunion.
Je suis très heureux
heureux que la Haute Autorité ait pris la main sur les règles de l'élection pour qu'elles ne soient pas contestables et que cela puisse apaiser, voilà.
Pour apaiser, le ministre de l'Intérieur n'a pas engagé de bataille juridique avec son concurrent qui tenait à une élection dans 90 jours, Laurent Wauquiez, qui, lui, n'a pas traîné devant les micros.
Est-ce que la guerre des chefs a commencé ?
Non, je fais tout pour l'éviter.
Juste le temps de faire porter à son rival la responsabilité d'une possible division, comme pendant la réunion, Bruno Retailleau assure vouloir de la sérénité.
Jamais, cette guerre des chefs ne viendra de moi.
Pas de quoi effacer les sous-entendus du camp d'en face, le député Vincent Jeanbrun soutient Laurent Wauquiez.
Cette élection doit être irréprochable. Ça signifie qu'on suive les statuts à la lettre d'une part et deuxièmement que les uns et les autres se respectent dans cette élection.
Chez Bruno Retailleau, on affiche toujours la même volonté d'apaisement. L'eurodéputé François-Xavier Bellamy vient tout juste de rallier le ministre.
Je ne doute pas du tout qu'on puisse la vivre dans un esprit d'unité parce que c'est une seule famille politique qui décide de son avenir.
La campagne durera donc 13 semaines. C'est court sur le papier, mais suffisamment long pour animer ce scrutin interne. Pendant les deux prochains mois notamment, de nouveaux électeurs pourront s'ajouter aux quelques 43 000 adhérents LR.
Raphaël Delvolvé, l'état de santé du pape François continue d'inquiéter. Il va rester hospitalisé à Rome jusqu'à demain au moins, même s'il a repris le travail. Précise le Vatican. Le souverain pontife, âgé de 88 ans, est soigné pour une infection des voies respiratoires.
Et puis les sorties cinéma, c'est demain en France, mais on prend déjà de l'avance ce matin, Marion, avec un aperçu du film L'Attachement.
Un film de Karine Tardieu qui explore les nouvelles recompositions familiales, ces liens inattendus. Valeria Bruni-Tedeschi incarne une célibataire féministe attachée à son indépendance qui va se lier d'affection pour un petit garçon orphelin à qui il ne reste qu'un beau-père, joué par Pio Marmaille. Sophie Torlotin a vu L'Attachement.
Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour une heure ou deux...
Moi j'ai dit ça.
Lorsque ses voisins partent en catastrophe à la maternité, Sandra, sur le palier d'en face, se retrouve à s'occuper d'un petit garçon de 5 ans qu'elle connaît à peine.
Tu connais rien, petit garçon. T'as pas d'enfant.
Je vais me préparer.
La libraire féministe, qui n'a jamais voulu d'enfant, va devenir la figure d'attachement du petit Elliot lorsque sa mère décède en mettant au monde sa petite sœur.
Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman.
Elle est morte.
Ouais.
Librement adapté du roman L'Intimité d'Alice Fernet, ce film explore les liens qui se créent entre des êtres réunis par les circonstances de la vie. La voisine, le beau-père du petit garçon, la mère de la jeune femme décédée. Sans pathos, Karine Tardieu explore avec subtilité et délicatesse la complexité des rapports humains. L'attachement émeut en abordant des sentiments profonds comme le deuil et la solitude, mais aussi l'amour et l'amitié.
L'Attachement de Karine Tardieu sort demain dans les salles en France.
Merci Marion Casanova, à tout à l'heure. Le journal des sports, c'est tout de suite sur RFI et c'est avec Antoine Grenier. Antoine, début ce mardi soir des barrages retour de la Ligue des Champions et 4 places en jeu pour les 8e de finale.
Ça s'annonce compliqué mais pas impossible pour l'AC Milan face au Feyenoord Rotterdam. Battu 1-0 aux Pays-Bas à l'aller, les Milanais sont dos au mur à partir de 17h45 temps universel en début de soirée avant que le Bayern Munich n'accueille le Celtic Glasgow. Les Bavarois, vainqueurs en Écosse 2-1 la semaine dernière, sont eux en situation plutôt favorable et donc carrément tranquille. Mais Vincent Kompany, l'entraîneur munichois, se méfie du Celtic.
Quand vous jouez contre des équipes qui ont l'habitude d'être très dominantes dans leur championnat, cela signifie qu'elles ont l'habitude aussi de marquer beaucoup de buts. Et c'est forcément toujours un danger tout le long des matchs. C'est ce que le Celtic a montré chez lui à l'aller. Je pensais que nous avions plutôt bien géré la situation en première mi-temps et ça s'est compliqué ensuite. Nous n'en sommes qu'à la moitié de notre confrontation et les paramètres n'ont pas changé. C'est une équipe qui est vraiment dangereuse et nous allons devoir l'être aussi. C'est un match à domicile et nous devons faire en sorte que cela tourne à notre avantage.
Bayern Celtic, coup d'envoi 20h, temps universel.
Et donc à la même heure que le match de l'AS Monaco.
Les Monégasques en déplacement sur la pelouse du Benfica qui les a battus 1-0 à Louis II lors du match aller mercredi. Chez eux, les Portugais sont donc favoris mais Monaco veut y croire, d'autant que le club princier a repris confiance après avoir écrasé Nantes en championnat samedi. Et pour l'entraîneur de l'ASM, Adi Hütter, ce résultat peut aider son équipe dans sa quête d'exploit à Lisbonne.
Oui, Benfica a l'avantage après le résultat à Monaco, mais nous sommes ici et nous ne voulons pas être un gentil adversaire. Nous voulons nous concentrer sur ce match à élimination directe et nous sommes ici pour faire tout ce que nous pouvons pour le gagner. On sait aussi que dans ce stade, il y a cette folle ambiance. Ce sera difficile, mais nous devons être convaincus que nous pouvons gagner ici. Pour cela, nous avons besoin d'une performance au top. Ils sont les favoris. Ils ont un avantage sur le résultat, mais le favori ne gagne pas toujours. Et c'est notre chance. Et mes joueurs, après le 7-1 contre Nantes samedi, ont vraiment une grande confiance. Ils sont prêts, ils veulent se battre et on verra ce qui se passera sur le terrain.
Benfica-Monaco, 20h temps universel, donc à la même heure, Catalanta-Bergame, Club Bruges.
En Espagne, Antoine, le Barça se réveille en tête de la Liga.
À la différence de but, certes, mais l'essentiel, c'est d'être devant le Real au classement. Et surtout, le Barça a été solide, moins impérial que d'habitude, mis en danger à plusieurs reprises. Les Catalans s'en sont quand même sortis en dominant le Rayo Vallecano. 1-0 sur un pénalty de Robert Lewandowski juste avant la demi-heure de jeu. Barcelone toujours invaincu en 2025 et qui enchaîne un 12e match sans défaite.
Et ça ne va pas plaire à Carlos Alcaraz, lui le madrilène, intraitable au premier tour à Doha.
Un ATP 500 démarré proprement par l'Espagnol, tête de série numéro 1. Alcaraz a dominé le Croate Marin Cilic en 2-7, 6-4, 6-4. Au prochain tour, il sera opposé au vainqueur du match entre le Chinois Zheng et l'Italien Nardi qui se dispute ce mardi.
Le journal des sports, Antoine Grenier. Merci, à tout à l'heure Antoine. Aujourd'hui, l'économie avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Nemo.
Ce matin, c'est d'un petit pays d'Amérique centrale que vous nous parlez, le Salvador, qui a une particularité, puisque ses autorités ont été les premières à reconnaître le Bitcoin, donc cette crypto-monnaie, comme monnaie officielle devenue donc légale à travers le monde. Mais ce fut aussi, paradoxalement, le premier pays à mettre fin à sa reconnaissance, c'était il y a deux semaines. Pari raté donc pour le président du Salvador, Stéphane.
Oui Nemo, en septembre 2021, Nayib Bukele en était fier. Son pays était le premier au monde à adopter officiellement le Bitcoin comme monnaie légale, donc avec un cours légal. Concrètement, cette loi obligeait toutes les entreprises et les institutions du Salvador d'accepter tout paiement en Bitcoin. Nayib Bukele estimait que cette mesure allait stimuler l'activité économique du pays en attirant des investissements et en accélérant des paiements. Sauf que voilà, 3 ans et demi plus tard, force est de constater que ce qu'il considérait comme une opération de modernisation du Salvador n'a pas vraiment marché comme il l'avait envisagé.
Et concrètement, Stéphane, qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Eh bien, la mayonnaise n'a pas pris. Tout simplement, déjà, pour payer en Bitcoin, il faut en détenir, ce qui n'est franchement pas donné à tout le monde. Pourtant, le gouvernement a beaucoup investi pour que ça fonctionne. D'après le quotidien hispanique El País, entre 200 et 400 millions de dollars ont été mis sur la table, notamment en créant une mesure incitative pour passer au Bitcoin. Il suffisait en fait de télécharger une application spécifique pour faire cette conversion. En contrepartie, vous receviez 30 dollars. Sauf que beaucoup de Salvadoriens ont fait la manipulation, mais en sont restés là pour simplement garder ces 30 dollars. D'après le Bureau National de Recherche Économique, un organisme privé américain, pratiquement la moitié des téléchargements ont eu lieu au lancement de l'application. La Banque Centrale Salvadorienne estime, elle, à moins de 2% l'envoi de fonds via ces cryptos entre janvier et novembre 2023.
Donc pour résumer, Stéphane, ce grand projet du président Bukele n'a pas porté ses fruits. C'est pour ça que le pays a fait marche arrière sur le sujet.
Oui, en partie, mais il y a une autre raison à cela. Les autorités ont finalement cédé aux demandes du Fonds monétaire international. Parce qu'il faut savoir que le Salvador fait face à une dette publique de 31 milliards de dollars. Elle est conséquente, elle représente à peu près 85% de son PIB. Pour obtenir des liquidités, seul le FMI acceptait de prêter, mais à une condition, mettre fin à la reconnaissance du Bitcoin comme monnaie officielle, l'institution ayant toujours vu d'un mauvais œil cette décision. Le Salvador a donc cédé aux pressions du FMI qui devrait lui octroyer donc un prêt d'1,4 milliard de dollars.
Et donc, que va faire le pays de ses bitcoins en stock ?
C'est vrai que le Salvador détient encore de cette crypto-monnaie dans ses réserves nationales, même si le gouvernement est plutôt discret, il faut le dire, sur le montant. D'après le Bureau National du Bitcoin, le Salvador possède 6050 bitcoins, ça correspond à peu près 600 millions de dollars. Pour le moment, le pouvoir ne va pas y toucher, mais Nayib Bukele mise sur son homologue américain. Donald Trump ne s'en cache pas, c'est un fervent défenseur des crypto-monnaies. Le président salvadorien estime qu'avec le nouveau locataire de la Maison Blanche, il y aura, je cite, une appréciation exponentielle du Bitcoin. Reste à savoir s'il en est convaincu ou s'il veut simplement se rassurer.
Aujourd'hui, l'économie, la chronique de Stéphane Genest. Merci Stéphane. Radio France Internationale, 7h20 ici à Paris, où se tiendra ce soir à l'Institut du Monde Arabe une soirée de soutien à l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis plus de 3 mois en Algérie. Noëlle Lenoir, la présidente de son comité de soutien, est votre invité ce mardi, Édouard Dupénoit.
Noëlle Lenoir, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio France Internationale. Ça fait 94 jours que Boualem Sansal est incarcéré en Algérie. Il est entré dans son 4e mois de détention. Ma première question ce matin, quel est son état de santé? Comment va-t-il? Qu'est-ce que vous en savez?
Alors, nous avons peu d'informations, puisque sa femme est sur place, mais évidemment elle est écoutée au téléphone, donc ce qu'elle peut en dire n'a pas une valeur de vérité considérable. Ce que l'on sait, c'est que il est très malade. Il a 80 ans, il est très choqué psychologiquement puisque sans doute par naïveté il ne s'attendait pas à cette incarcération lorsqu'il est arrivé à l'aéroport d'Alger pour chercher ses affaires et s'installer définitivement en France. Il a été sans doute, est-ce vrai, sujet à une crise, donc il a eu une radiothérapie, mais immédiatement après son transfert à l'hôpital militaire, il a été reconduit dans son cachot. Et donc, pour l'instant, comme vous le savez, son avocat français n'a pas de visa. L'ambassadeur de France, bien qu'il soit français, n'a pas pu exercer la protection consulaire, c'est-à-dire le visiter, et personne ne va le voir. Et nous craignons qu'il ne sache même pas qu'il est soutenu ici. Et chaque jour, je dois dire... On s'attend à peut-être une mauvaise nouvelle, donc nous sommes excessivement inquiets.
Le président Abdelmadjid Tebboune assurait dans un entretien au quotidien français L'Opinion que Boualem Sansal avait reçu des soins appropriés et qu'il serait jugé dans le temps judiciaire imparti. Est-ce que vous croyez à ces déclarations? Est-ce que vous croyez que l'Algérie entame une procédure judiciaire classique vis-à-vis de Boualem Sansal?
Alors d'abord, il faut savoir que c'est devenu un régime de terreur. Tous les Algériens en France à qui on peut parler et auprès desquels on peut évoquer ce qui se déroule aujourd'hui en Algérie, c'est un régime de terreur.
Plusieurs ONG font part effectivement de plusieurs centaines, si ce n'est plus de 2000 prisonniers dits d'opinion, effectivement.
Absolument. Et il y a quelques jours, un dessinateur qui a 28 ans et qui est un collaborateur de Charlie Hebdo, après avoir été condamné il y a quelques années à 10 ans de prison, a été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il serait bien soigné en Algérie. Sans vouloir, disons, faire de jeu de mots, ce serait quand même le seul Algérien de haut rang à être soigné en Algérie. Puisque d'habitude, ils viennent se faire soigner en France. C'est d'ailleurs un des débats actuels sur le non-remboursement des frais hospitaliers par le gouvernement algérien. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il serait condamné? Pourquoi est-ce qu'il serait jugé? Ça, c'est une hypothèse que nous refusons absolument, puisqu'il est accusé, c'est un procès stalinien en réalité, il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Quelle atteinte à la sûreté de l'État pour publier des ouvrages qui sont censurés en Algérie?
Ça fait effectivement 20 ans que Boualem Sansal publie des ouvrages très critiques. On lui reprocherait cette fois des propos qu'il aurait tenus auprès d'un média français d'extrême droite où il aurait parlé du territoire marocain qui aurait été tronqué au moment de la colonisation d'une partie du territoire qui reviendrait au Maroc, qui serait aujourd'hui dans les frontières géographiques de l'Algérie. C'est ce qui lui est reproché en vertu d'un article très étendu du code pénal algérien.
Et alors? Monsieur Macron a pris position pour le Sahara occidental. Madame Rachida Dati est allée triomphalement pour créer dans cette région une nouvelle alliance française. Et donc, est-ce que c'est un crime que de s'exprimer?
Justement, j'allais venir à ce déplacement de la ministre de la Culture qui était effectivement hier dans ce territoire du Sahara occidental qu'elle a elle-même désigné selon la terminologie marocaine d'ailleurs des territoires du Sud. Est-ce que vous trouvez que ce déplacement est approprié quand on sait le soutien historique que l'Algérie apporte au Front Polisario dans ses revendications sur ce territoire? Est-ce que vous trouvez que le moment était bien choisi pour qu'une ministre d'un tel niveau du gouvernement français fasse un tel déplacement et utilise de tels termes?
Et je vous remercie beaucoup de cette question parce que ça permet de clarifier. Nous sommes un comité de soutien. Nous défendons un prisonnier, un détenu d'opinion, dont la vie est en danger quotidiennement et qui n'a aucune raison d'être en prison, d'être incarcéré, y compris dans des conditions qui sont quand même certainement extrêmement défavorables. La diplomatie française, c'est autre chose. Or, que constate-t-on ? On constate qu'on nous demande une certaine discrétion. J'ai entendu cela de la part de diplomates, y compris français, à Bruxelles. Bon, la discrétion, nous l'avons eue jusqu'à présent. Nous avons quand même bénéficié d'un large soutien, presque unanime en dehors de LFI, à l'Assemblée nationale, au Sénat et... LFI n'existe pas au Sénat, mais enfin, disons, tout le spectre politique et au Parlement européen. Donc, nous ne mêlons pas et nous ne remettons pas en cause les choix de la politique étrangère. Nous nous inscrivons dans une autre logique qui est une logique de droits fondamentaux et une logique humanitaire compte tenu de l'état de santé de Boualem Sansal. Et effectivement, nous observons que la diplomatie, ça ne marche pas. C'est pourquoi on veut passer à un stade supérieur.
C'est-à-dire que vous êtes sur la même ligne que ce que disait par exemple le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau il y a quelques jours, qui remettait presque en cause la diplomatie française en disant qu'effectivement la discrétion jusqu'ici n'avait pas marché et qui s'indignait médiatiquement de cette lenteur dans le processus.
Je crois que Bruno Retailleau sur ce dossier fait un excellent travail. Il fait un excellent travail, pourquoi ? Parce que il met sur un pied d'égalité deux pays, nous ne sommes pas supérieurs ni inférieurs à l'Algérie, deux pays, et il regarde quelles sont les relations entre ces deux pays pour qu'elles soient plus égalitaires. Et je pense qu'effectivement, et ça c'est le travail du gouvernement, il faut repenser ces relations, notamment, je pense que dès lors que l'avocat français de Boualem Sansal est bloqué à Paris, ne peut rien faire, et donc ne fait rien, eh bien il faut suspendre les visas pour les Algériens. Parce que les mesures de rétorsion à l'encontre du gouvernement français et donc par ricochet de Boualem Sansal sont absolument inadmissibles. C'est la raison pour laquelle le comité de soutien, et ça tombe bien que vous m'invitiez cette semaine, a décidé à la faveur de cette soirée à Lima, eh bien de passer à un stade supérieur,
c'est-à-dire
non pas d'agressivité, mais nous allons saisir l'Union africaine, qui a une charte des droits de l'homme, pour poser le problème de l'incarcération d'un prisonnier d'opinion qui est d'un des plus grands écrivains francophones de la période actuelle, et même peut-être, et aussi des actes d'agression contre Kamel Daoud, qui fait l'objet d'une enquête pour une histoire totalement montée, au motif qu'il a pris parti pour Boualem Sansal. Donc il est absolument inadmissible que des Français ou des résidents français, et qui sont chez eux, chez nous, soit attaqué au simple motif qu'ils défendent Boualem Sansal et les idées qu'ils promuent. Parce qu'en réalité, derrière Boualem Sansal, il y a l'idée qu'on ne peut pas toucher au Sahara occidental et qu'on ne peut pas critiquer l'islam et le gouvernement algérien.
J'aimerais revenir en une minute sur cet entretien que j'évoquais tout à l'heure, que le président Tebboune a donné à la presse française il y a de cela quelques semaines, où il estimait que les deux pays, la France et l'Algérie, devaient reprendre le dialogue, qu'il était temps que le dialogue reprenne entre Paris et Alger, que cela ne pouvait venir que de l'initiative du président Macron. Est-ce que vous y voyez une forme d'ouverture, en tout cas de porte laissée entrouverte de sa part pour un éventuel apaisement des tensions et peut-être la libération de Boualem Sansal ?
Le président Tebboune, c'est pas lui, c'est la sécurité militaire. Comme vous le savez, c'est comme en Iran, le président de la République n'a pas de pouvoir décisionnel. En réalité, ils sont très ennuyés. Parce que nous savons qu'ils ne s'attendaient pas du tout aux réactions françaises pour défendre Boualem Sansal. Je pense que l'ouverture n'existe pas, puisque pour l'instant, ils refusent d'accueillir des Algériens qui sont retournés dans leur pays pour des raisons d'ordre public.
Mais que cela pourrait venir, en tout cas, peut-être de la part d'un geste politique français. Noël Lenoir, je vous remercie, je suis obligé de mettre fin à cet entretien. Merci beaucoup.
Merci.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Quand l'écriture guérit, thérapie par la création littéraire encadrée par des soignants, comment fonctionne cette écriture refuge, écriture qui soulage ?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
À Louga, dans le nord du Sénégal, les contes et les épopées ont la vie dure. Pour raconter l'histoire des anciens royaumes, éduquer les enfants, conteurs et griots ont plus d'un mot sur la bouche et pas des mots à la légère, selon Youssour Margane, déclaré trésor vivant en son pays.
De vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
392 après Jésus-Christ, l'Empire romain se disloque et avec lui disparaît le paganisme pour faire place à une nouvelle religion, le christianisme. Dans le dernier roman de Catherine Clément, les dieux vivent, aiment, meurent et se disputent. C'est un roman drôle et une leçon d'histoire.
Sur le Pont des Arts avec Nathalie Amar, du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.